Bonjour à tous, voici l'épisode numéro 8 des méthodes de jazz en Provence, la prestation. Alors la finalité d'un musicien de jazz étant de partager sa musique avec le public, il me semble important d'aborder ce sujet. Par prestation, nous entendons une représentation de jazz en public, que ce soit un concert, une animation, une soirée, etc. Par contre, nous excluons la jam session qui est un exercice très particulier. Le propos ici n'est pas de parler de la prestation en elle-même, mais plutôt de sa préparation, qui est, vous allez le voir, plus importante que la prestation elle-même. En effet, quand tout est bien préparé et pensé, en général, ça se passe bien. Dit autrement, quand quelque chose se passe mal, c'est souvent que cela a été mal préparé. Il est utile aussi de préciser que pour le public, il n'y a pas de différence entre une prestation amateur et professionnelle. Bien sûr, si vous allez à un concert dans un stade ou une grosse salle, vous vous doutez bien que les musiciens et les techniciens sont tous professionnels, mais dans un restaurant ou une soirée au bord de la piscine, c'est moins évident. Donc le fait que les musiciens soient payés ou non, que ce soit leur métier ou pas, ne devrait pas changer la qualité de la prestation. Nous allons donc voir les différentes étapes aboutissant à une prestation réussie. Alors tout d'abord, la préparation musicale. Évidemment, c'est à ça qu'on pense en premier, à la préparation de ce qu'on va jouer. On peut donc considérer que tout ce que nous avons vu dans les épisodes précédents constitue une grande part de la préparation. Connaître parfaitement ce qu'on va jouer semble être un minimum. Lors d'une prestation, avec le stress, le trac éventuel, la distraction provoquée par tout un tas de facteurs absents lors des répétitions, on perd automatiquement une partie de ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, j'ai coutume de demander aux élèves d'exagérer considérablement les nuances quand ils étudient, car sur 100% au départ, il va en rester peut-être la moitié en situation. La préparation, c'est automatiser le maximum de choses afin que le moment venu, on puisse se concentrer sur l'imprévu. C'est ce que font d'ailleurs, inlassablement, par exemple, les pompiers, les troupes d'intervention ou autres, en répétant inlassablement les mêmes gestes pour les automatiser, afin qu'en intervention, ils puissent faire face à ce qu'ils n'auraient pas pu prévoir. C'est la même chose en musique. Plus on est rodé, plus on est disponible pour la musique et l'improvisation, dans tous les sens du terme. Certains musiciens ont le trac, qui est une forme de peur, et en général, on a peur de ce qu'on ne connaît pas ou de ce qu'on connaît mal. La meilleure façon de l'apprivoiser, c'est d'être sûr de sa technique, ça permet de s'y raccrocher quand c'est nécessaire. Ce sont donc notre technique et notre connaissance des thèmes qui nous permettent d'avoir confiance en nous et d'avoir moins peur. C'est un préalable à tout ce qui suit. Alors, au niveau du répertoire maintenant, une fois la préparation musicale faite, c'est-à-dire ce qu'on va jouer, il est nécessaire d'organiser la prestation d'un point de vue du répertoire. Si tous les thèmes sont choisis, il faut décider un ordre, en tenant compte des styles, des tonalités, des contraintes de certains instruments. Par exemple, un saxophoniste qui a plusieurs saxophones qui doit en changer, ou un guitariste qui a plusieurs guitares, etc. Donc le choix est fait aussi en fonction du type de prestation. Par exemple, si on joue dans un restaurant, il faut commencer doucement pour que les serveurs puissent prendre les commandes et laisser les gens un peu discuter entre eux. Ensuite, on va monter en volume et en dynamique. Par contre, dans un concert, ce sera sûrement mieux en commençant par un thème dynamique pour accrocher le public. Quand il y a plusieurs sets, une bonne idée, c'est de définir les thèmes qu'on veut au début et à la fin de chaque set. Ensuite, c'est plus facile de remplir l'intérieur des sets. Il y a de multiples façons de définir un répertoire, ça fait partie de la créativité du groupe aussi. Le plus important, c'est que ce soit pensé et arrêté bien avant la prestation. Si on a fait suffisamment à l'avance tout ce travail, ça permet aussi de répéter les thèmes dans l'ordre du concert et donc d'automatiser davantage les transitions entre les thèmes. Ensuite, les supports. Une fois le répertoire défini, les musiciens, s'ils jouent avec des partitions ou des grilles, vont pouvoir les organiser dans l'ordre afin de ne pas avoir à les chercher pendant les transitions. Mais un spectacle, c'est pas seulement un répertoire, c'est aussi un visuel, des interventions parlées, ça se prépare aussi. Qui va parler, à quel moment, pour dire quoi. Parfois, le public va se rappeler autant de ce qu'on aura dit que de ce qu'on aura joué. Présenter un morceau en l'expliquant, ça va permettre à l'auditeur de le vivre différemment, bien souvent. On peut s'y apporter quelques touches culturelles, sans oublier les remerciements au public, aux responsables de la salle, à la municipalité, etc. Donc préparer ce qu'on va dire au public permet de passer les messages qu'on souhaite et les noter permet de rien oublier. C'est donc bien de faire un synopsis du spectacle, comme on le ferait dans le cinéma, un genre de feuille de route. On peut y noter les thèmes, les interventions parlées, les moments importants. Pourquoi pas pour les thèmes, qui fait l'intro, le thème, les chorus. Bien que dans les épisodes précédents, nous avons expliqué pourquoi il est bon de se débarrasser de ça pour plus de spontanéité. Ensuite, il y a le dress code. Alors, c'est pas la peine de développer cet aspect, mais évidemment, la tenue est un facteur important de la prestation scénique. Là aussi, tout est possible. Il faut seulement que ça ait été discuté ensemble et puis que tout le monde se tienne aux choix qui ont été adoptés. Alors, on va parler maintenant de la mise en situation. Parce que entre jouer son répertoire entre copains et le jouer sur scène, il y a une différence. Et il est tout à fait possible de s'y préparer, ce que négligent souvent les musiciens. Pour cela, il suffit de se mettre en situation. La mise en situation, quand elle est bien faite, permet le moment venu de répéter quelque chose qu'on a déjà vécu. Ça a fait ses preuves dans de nombreux domaines, comme on l'a dit au début. Alors, comment le faire en musique? Tout d'abord, il y a le placement. Il faut, tant que faire se peut, se mettre en situation physiquement. Et c'est difficile dans son local de répète d'avoir des conditions matérielles qui seront celles de la scène, mais c'est déjà possible de se placer de la même façon que lorsqu'on va jouer en public. Même si l'espace est réduit, on se place les uns par rapport aux autres comme sur scène, face au public, qu'on peut même matérialiser avec quelques chaises. Alors qu'en répétition, on est souvent tournés les uns vers les autres, là on est tous face au public, le chanteur et les soufflants devant, les autres dans une disposition cohérente selon le choix qu'on a fait ensemble. On peut envisager différents placements, mais il y a quelques règles simples qui fonctionnent bien. La basse à gauche du batteur, du côté de la cymbale Charleston, la guitare à gauche de la basse, le piano à droite de la batterie, ça permet à chaque musicien de voir les autres, ça c'est très important. Il n'y a rien de pire, par exemple, pour un batteur d'avoir le bassiste entre lui et le piano, ou entre lui et la guitare. En travaillant ce placement, on s'aperçoit que pas mal de réflexes de communication vont changer. Par exemple, le chanteur qui, lors des répétitions, regardait en permanence le pianiste, qui de son côté l'aidait par exemple pour les reprises ou autres, ben là il va devoir écouter davantage car il sera devant avec le pianiste derrière lui. On ne peut pas imaginer prendre le risque de se retrouver dans cette situation seulement le jour du concert sans l'avoir testé auparavant. Et ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc, maintenant que tout est prêt et qu'on est placé, on peut aborder l'un des éléments clés d'une bonne préparation, c'est la répétition générale. Comme vous le savez, dans certains styles de musique, comme les orchestres classiques, un concert ne se fait pas sans une répétition générale au préalable. Il s'agit de faire tout comme au concert. Parfois d'ailleurs ça se fait même en public et en costume de scène. La différence entre la répétition générale et le concert, c'est que le chef d'orchestre, et lui seul, peut décider d'interrompre la prestation s'il le juge opportun. Il s'agit donc d'une mise en situation permettant d'une part de vérifier que tout est ok, mais aussi pour chaque musicien de la vivre comme si c'était le concert. Malheureusement, dans d'autres styles de musique moins rigoureux, la répétition générale n'est pas systématique et on s'en rend compte lors des prestations. Donc vous l'aurez compris, il est plus que conseillé de le faire. Le simple fait d'être placé comme nous l'avons vu précédemment va nous faire ressentir les choses différemment. On va aussi parler au public, chose qu'on ne fait pas en général quand on répète. Et donc on pourra vérifier la cohérence de l'ensemble du spectacle. Enfin, on va pouvoir aussi chronométrer pour savoir si la durée effective de la prestation correspond à ce qu'on souhaitait. Mais une mise en situation n'est efficace que si les intervenants jouent réellement le jeu et s'immergent au maximum dans l'exercice. Ça veut dire qu'entre le top de début et le top de fin, on ne fera ni ne dira rien que l'on aurait fait ou dit lors d'un concert. On ne s'arrêtera pas quoi qu'il arrive, et on commentera pas les erreurs du thème précédent, etc. Mais on fera aussi les entrées sur scène, les saluts, les rappels, les sorties, afin que tout ça ne soit pas laissé au hasard. Par expérience, c'est le plus difficile, car justement, par manque d'habitude, c'est compliqué de rester concentré et de vraiment penser en permanence que l'on est en concert. Et pourtant, c'est le seul moyen pour acquérir l'expérience du déjà vécu qui permettra une plus grande sérénité le moment venu. La répétition générale, durant par définition aussi longtemps qu'un concert, si on peut en faire une, c'est déjà bien. Car ensuite, il faudra débriefer, voir ce qui est perfectible, quitte si l'on peut à la refaire une prochaine fois. Il est utile de filmer la générale, car pendant celle-ci, il est impossible de prendre des notes, et beaucoup de détails risquent d'être oubliés à la fin. Ça permet aussi de voir ce que ça donne de l'extérieur et de remarquer des choses qu'on n'aurait pas pu voir depuis sa place. Or aujourd'hui, c'est facile de filmer avec un simple téléphone monté sur un pied et puis l'adaptateur adéquat. Donc, on a fait notre général, on est prêt, maintenant il faut voir le matériel. Il faut commencer par le backline, c'est-à-dire tout le matériel utilisé par les musiciens. Il est bon aussi de tout lister pour être sûr que chacun a ce qu'il faut et puis qu'on ne va rien oublier. Alors il y a deux cas qui peuvent se présenter. Le premier cas, on joue à un endroit ou dans une salle où il n'y a rien ni personne pour s'en occuper. Vous arrivez, c'est une salle vide, donc le groupe dans ce cas, c'est le seul à organiser le concert avec son propre matériel. Ce sera à lui d'apporter, en plus du backline, la sonorisation et la lumière. Il faut lister tout le matériel de sonorisation et de lumière, les enceintes, les retours, les tables de mixage, les câbles, les pieds de lumière, etc. Savoir qui prend quoi et qui va s'occuper de quoi sur place. Le deuxième cas, c'est quand il y a un sonorisateur qui gère la sono et les lumières. Dans ce cas, lui, il aura besoin à minima, en amont de la prestation, d'une fiche technique et d'un plan de scène. En général, il y a un membre du groupe qui fait l'interface avec lui pour tous les détails et puis qui peut répondre à toutes les questions qu'il aurait. Ensuite, on va s'occuper des horaires. Alors, c'est la dernière étape, mais elle est importante, c'est le planning horaire avec des heures d'arrivée, d'installation, de balance, de pause et puis de rangement du matériel. Là aussi, si on est en contact avec un organisateur, il sera nécessaire de voir avec lui non seulement les horaires, mais aussi à quelle heure on peut arriver, est-ce qu'on peut accéder jusqu'à la scène en voiture, où est-ce qu'on se gare ensuite, est-ce qu'il y a un code d'accès, etc. On verra aussi les horaires de repas, si on mange avant ou après le concert. S'il y a un sonorisateur, c'est lui qui suggérera les heures d'installation et aussi de balance. N'oubliez pas que si vous partagez la scène avec un autre groupe, celui qui joue en premier va balancer en dernier. De cette façon, on n'a pas à rechanger le matériel après le dernier groupe, il peut commencer tout de suite le concert. Si le groupe est autonome, c'est à lui de bien réfléchir à tout ça en prévoyant toujours plus large, car être dans le stress lors de l'installation parce qu'on est trop juste, ça n'aidera vraiment pas à aborder sereinement le concert. En conclusion, c'est difficile en quelques minutes de détailler tout ce que les musiciens mettent des années à perfectionner, mais si l'on devait retenir qu'une seule chose, c'est qu'une prestation se prépare spécifiquement et que mieux elle sera préparée, plus elle sera réussie et donc mieux elle sera vécue par tous les musiciens.